Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Agora pour la dernière émission de la fête de la vie associative. Nanterre a mis en place, grâce au travail des associations, une solidarité avec ses partenaires à l'international. Comment les associations nanterriennes ont-elles répondu et accompagné leurs partenaires à l'étranger malgré la crise sanitaire qui empêchait justement les déplacements et les initiatives sur le terrain? Quelles inégalités la crise a-t-elle fait ressurgir? Avec nous aujourd'hui Marcia de Jamaica Diaspora, Isabelle de l'association Brandidar, Cassie de l'association Dire El Khair, Louis et France de l'association CCFD Terre Solidaire, ainsi que Thérèse, adjointe au maire à la vie associative. Vous allez bien ?
Ça va. Ça va bien, merci.
Super. Alors, Thérèse, justement, on va commencer par vous. Moi, j'ai vu une interview où vous avez dit « Je veux rendre à Nanterre tout ce qu'elle m'a donné. Sans cette ville, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. » Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est important pour vous, justement, d'être impliqué dans une ville aussi engagée en termes d'association?
Alors, bonsoir à tous. Je voudrais dire que pour moi, c'est tout à fait naturel, lorsqu'on habite en Nanterre, de s'engager pour la cause de solidarité, de s'engager pour les autres. Nanterre est une terre d'accueil, c'est une terre d'immigration, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville où tout le monde a sa place. Donc pour moi, c'est tout naturellement que je me suis engagée dans cette merveilleuse aventure qu'est la solidarité. Voilà.
Et justement, qu'est-ce qui est important pour vous pour aider justement les associations à mener à bien leurs engagements?
Mais d'abord, de les soutenir, de les accompagner. C'est ce que nous essayons de faire, nous, à la vie associative, malgré la crise financière que racontent plusieurs territoires, plusieurs communes. Parce que, pour rappel, sur l'année 2021, Nanterre n'a pas touché de dotation globale de fonctionnement. Malgré toute cette crise-là, eh ben, vous voyez, toutes les associations de Nanterre répondent toujours présentes à chaque fois qu'on les sollicite. Donc, il me semble hyper important que nous continuions dans cette voie-là, à les soutenir, à les accompagner, à mettre en place des solutions pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui même, lors de cette fête de la vie associative, on lancera l'OLVA, c'est-à-dire l'Observatoire local de la vie associative, pour pouvoir comprendre les besoins de nos associations et les accompagner encore mieux.
Génial. Et justement, vous, les associations, qu'est-ce que ça vous fait justement d'être dans une ville comme Nanterre qui est très engagée d'un point de vue associatif? Et pourquoi c'est aussi très important pour vous de vous engager? Isabelle, de Brandidar, du coup.
Moi, je suis très contente d'être habitée dans la ville de Nanterre. Avant, je rêvais. Parce que j'avais de la famille qui habitait ici. Moi, je suis originaire du Chili. Il y avait mon neveu qui habitait ici, Nanterre. Et bien, j'ai passé toutes les fêtes, toutes les activités aux familles. Je les passais ici, à Nanterre. J'ai rêvé de vivre à Nanterre parce que je sais très bien que c'est une ville solidaire. Et depuis que j'ai créé j'ai pris ma retraite et j'ai créé ma propre association. Maintenant, je suis la présidente de l'association Brandidar.
Et justement, comment est-ce que vous intervenez? Je sais qu'il y a eu plusieurs événements qui ont été annulés, que ça a été très compliqué parce que malgré le fait que vous ayez fait des événements via Zoom, etc., c'est pas pareil que de se déplacer ou du moins d'avoir des interlocuteurs proches.
Ouais, c'était très difficile, période de confinement. On a eu plusieurs personnes malades, des amis aussi qui sont décédés tout au début de la pandémie. Mais on est resté quand même solidaires. On a effectué, des gens nous ont donné des tissus pour faire des masques. On a eu des élastiques même qu'on a offert. On a mis en contact la ville. On est resté solidaires aussi parce qu'on a un tissé lié pour garder des vêtements, pour faire des braderies. Oui. On a en profité pour les donner aux catch parce qu'on ne pouvait pas faire des braderies, mais on les a offert, quoi.
Et pour vous, Marcia, justement, comment est-ce que vous êtes Pourquoi c'est si important aussi de vous engager et comment est-ce que vous avez fait justement malgré cette crise pour intervenir au sein de l'association ?
Bonsoir, donc Marcia de l'association Jamaican Diaspora en France. J'habite en Ontario depuis plus de 25 ans et j'ai l'impression que c'est depuis 2019 quand j'ai créé l'association que je découvre vraiment Nanterre. Et vraiment Nanterre pour moi c'est juste une ville incroyable, une ville accueillante et une ville qui m'a permis avec mes enfants d'être bien et je vois que les personnes autour de moi ils sont bien. Maintenant l'association, on a créé l'association en 2019 en plein début de Covid. Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'association, mais on a essayé d'exister à travers des émissions Zoom, des événements Zoom. Et la plupart de ce que nous avons fait, c'est via Zoom et avec la Jamaïque. Directement, nous avons travaillé avec une école des enfants sourds et muets. Et vraiment, on a fait une émission et les enfants, tout à coup, pour les enfants sourds, de participer à des émissions ou des événements internationaux, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Oui.
C'était vraiment, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient accéder à ce plateforme d'exister avec nous. Nous sommes en France, eux ils sont en Jamaïque, il y avait des personnes qui étaient connectées des États-Unis, l'Angleterre, ils étaient un peu partout. Donc tout à coup, il y en a qui ont pleuré, ils étaient contents.
Oui.
Donc vraiment, on essaye de... ce que nous avons essayé de faire maintenant, c'est de trouver peut-être une école ou des écoles sous-émue en France pour pouvoir faire quelque chose ensemble, même via Zoom. Voilà.
Et du coup, pour la session Dir El Khair.
Oui, bonsoir. Donc, Cassie de l'association Dir El Khair, faire le bien, qui veut dire faire le bien.
Ouais.
Donc, pour juste situer les choses, Dir El Khair, ça veut dire, c'est une expression du Maghreb. Donc c'est vrai que c'est pas chez nous les Maghrébins, quand on dit dir el khair, il faut rien attendre en retour. On fait le bien pour faire le bien, voilà. Donc l'association dir el khair existe maintenant depuis 10 ans. On mène des actions telles que des maraudes tous les samedis devant l'hôpital de Nanterre où on distribue à manger pour les SDF. On fait des maraudes sur Paris pour des migrants, donc une fois par semaine pour d'Aubervilliers, pour de la Villette, le port de la Chapelle. On distribue des colis alimentaires aux familles de Nanterre. Il faut savoir qu'on a à peu près 300 à 350 familles qui viennent chez nous pour bénéficier d'un colis alimentaire. Donc on travaille aussi à l'international, on fait de l'aide alimentaire à l'international au Sénégal, au Bangladesh, au Népal, au Togo, en Mauritanie, en Algérie, c'est une opération qu'on est en train de mettre en place pour venir en aide aux sinistrés des incendies de la capitale.
En cabine.
Voilà. Donc là, on a fait une grosse collecte de médicaments et de matériel médical aussi qu'on va faire partir bientôt, j'espère. On attend les autorisations ministérielles algériennes, bien entendu. Donc ça traîne un petit peu, mais on ne désespère pas que ça va arriver. Donc on fait du parrainage d'enfants dans les orphelinats, notamment au Sénégal. On creuse des puits dans plusieurs pays aussi d'Afrique. Donc on est à peu près à 200 puits. On aide des paysans dans ces pays-là à... On leur donne des arbres fruitiers, pour ainsi dire. Ça les aide à subvenir un petit peu à leurs besoins. Et on aide aussi ponctuellement les familles qui sont dans le besoin financièrement. Voilà, donc c'est clair que Nanterre, c'est une ville qui facilite on va dire, les choses pour les acteurs qui veulent s'investir vraiment dans le social, l'humanitaire. On a toujours eu des gens agréables qui nous ont répondu positivement quand il était possible. Et même quand ce n'est pas possible, c'est toujours dit d'une manière qui n'est pas choquante. Okay. Voilà. Mais on ne désespère pas qu'on continuera à travailler avec eux et qu'on développera d'autres choses. Voilà.
Merci. Et justement, pour la CCFD Terre Solidaire, comment est-ce que ça s'est passé?
Oui, bonsoir. Louis et Franz du CCFD Terre Solidaire ici à Nanterre. Alors, comment on est très heureux d'être à Nanterre. On a une équipe locale et on a un certain nombre de bénévoles qui agissent et on a... comme une association nationale, on a comme pilier le développement. Nous, notre vecteur, c'est de permettre que nos partenaires, et partenaires dans des pays généralement du Sud, des pays dits pauvres, et on appelait ça autrefois les pays sous-développés, qu'ils puissent se développer, et se développer par eux-mêmes. C'est, on apporte une aide, mais on n'intervient pas à leur place. On n'apporte pas de matériel ou de nourriture en urgence. On est sur l'action à long terme de développement.
D'accord.
Ça, c'est très important à bien comprendre ce que l'on fait. Et on nous, avec environ, là, dans le monde, il y a environ 600 associations et partenaires que nous aidons. Et tous les ans, au moment début de l'année, ce qu'on appelle dans le monde catholique le carême, on a toujours des partenaires qui viennent nous rendre visite en France. Cette année, étant donné la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Alors ce que l'on a fait, on a demandé aux chargés de mission, c'est-à-dire au sein du CCFD Terre Solidaire, des gens qui sont en charge de maintenir les liens avec les partenaires et grâce aux techniques numériques, donc visioconférence, visio, zoom et ainsi de suite, on a pu toucher un très grand nombre de gens qui n'ont pas eu besoin de se déplacer, parce qu'avant, on organisait des débats dans des salles, généralement et pratiquement toujours en soirée. Et donc là, il n'y avait pas ce problème-là. Et on s'est aperçu, c'est malheureusement un aspect positif, on a touché beaucoup de monde.
Beaucoup plus de personnes.
Ah oui.
D'accord.
Et ça, sans commune mesure avec Léa. Donc là, on pense que l'avenir, ce sera peut-être de faire des mixtes, d'avoir toujours... on a craint beaucoup que, n'ayant pas de personnes physiques qui viennent des pays, que ce soit un handicap. Et apparemment, non, ça n'a pas été un handicap. On a réussi à surmonter ce problème-là. On a, alors, en ce qui concerne le 92 et Nanterre en particulier, on a travaillé avec Haïti, avec une association qui s'appelle Tête Collée, qui est en fait une association de paysans à Haïti. C'est un... une certaine forme de syndicat de paysans agricoles, et leur principal problème auquel on les aide, c'est la lutte contre l'accaparement des terres. Parce qu'il faut voir que dans beaucoup de pays auxquels on est présent à travers ses partenaires, la lutte contre l'accaparement des terres par de grands groupes agroalimentaires, c'est quelque chose de très très puissant. Et c'est très difficile de maintenir une agriculture paysanne basée sur l'agroécologie qui leur permette de vivre. C'est ça qui est là. Donc encore merci à Nanterre. On est toujours très heureux d'être ici au forum tous les ans. Ouais. On a toujours un stand, on est toujours là. On est connu, reconnu depuis de nombreuses années. On en remercie bien sûr toute la ville et la municipalité.
Et justement, c'est intéressant, je trouve, d'entendre que malgré le fait qu'on n'ait pas pu aller sur le terrain, que les initiatives, du coup, vous vous êtes adapté clairement, et que vous ayez malgré tout réussi à toucher davantage de personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'associations, ne serait-ce qu'en France, qui n'ont même pas pu faire ça, en fait, et se rendre compte qu'à l'international, alors que c'est pas du tout... c'est le principe, hein, c'est pas à côté, que vous ayez eu plus d'impact.
Mais c'est vrai que le fait d'avoir des réunions en visio ont clairement aidé quelques associations, mais moi je voudrais quand même souligner le fait que les associations à l'international ont beaucoup souffert.
du Covid? Ouais.
Beaucoup de la pandémie, parce que plusieurs travaillent avec des associations locales dans des campagnes, dans des villages. Et nous savons la difficulté de pouvoir toucher du monde chez nous. Même les associations, alors là je vais parler par exemple du sud du Sahara, les associations locales qui sont même dans des grandes villes, des ouais. capitales, dans les métropoles. On a des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Donc ce n'est pas facile déjà de pouvoir travailler, faire des rencontres en Zoom. Et encore moins porter de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup d'associations en Nanterre qui envoient de l'aide en Afrique subsaharienne par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu pendant un an et demi.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Et pour ne pas souligner même le fait de pouvoir échanger avec les associations locales. Donc, cette pandémie a été quand même un vrai frein à l'action associative, notamment dans la coopération internationale.
Ouais. Vous vouliez rebondir du coup
Oui, moi aussi, je voulais, quand j'entends parler problème ouais. des terres aussi au Chili, dans la région du sud du Chili, la région où habitent les peuples Mapuche, que je suis originaire, mais ouais. très très rien côté ma grand-mère paternelle. Et c'est un peuple qui lutte aussi pour garder ses terres. Il y a les grandes entreprises aussi qui essayent de s'accaparer de ces terres. Il y a beaucoup de prisonniers Mapuche, que c'est l'État actuel
oui.
qui organise des arrestations pour des personnes qui ne sont jamais impliquées. Et aussi, voilà, on était très engagés aussi à aider Anne-Nicole là-bas, parce que l'éducation au Chili, c'est très difficile. On avait un échange avec Anne-Nicole. On avait avec des enfants de 7 ou 8 ans, on envoyait des colis, on avait un échange avec eux. Et là, avec la répression, parce que là, ils vivent vraiment dans un état de guerre, parce ouais. que les présidents actuels, ils ont déclaré tous ces territoires terroristes. Là-bas, ah oui, il suffit qu'il y ait un enfant, il en balance une pierre, et un enfant, il va dans les tribunaux et il est accusé pour un terroriste.
Ah oui, d'accord.
C'est très difficile, et la communication en ce moment, c'est complètement coupé
ouais,
avec
ce que
cette
vous
petite
disiez,
école.
Justement, ouais. Et que parfois même, c'était vous qui faisiez justement le travail d'information, parce qu'il y avait des personnes au sein même du pays qui n'étaient pas au courant, et c'était grâce à votre travail d'information.
Voilà, que les gens, ils sont pas, c'était pas au courant, qu'est-ce qui ouais. se passe dans la région, dans cette région-là. Parce que bon, les médias là-bas, ils sont pas le pas. Bah, heureusement
qu'il y a. Mais je me dis qu'il y a une censure, ouais.
Voilà, il y a la censure. Ouais. Heureusement qu'il y a les associations pour être là aussi. Et là aussi, on est à la fête pour demander la libération de les anciens politiques des périodes de la dictature.
Ouais.
Qu'elle a 62 ans, qu'elle a, mais elle a été arrêtée de période de la dictature, quoi. Et là, ça va faire 48 ans.
Ah oui, quand même.
Qu'existe la dictature, qui a eu le coup d'État au Chili, et que, voilà, et ça a échappé. À l'époque, il y a plusieurs personnes qu'elle a. La résistance, elle a fait échapper de les prisons. Et là, c'est les seuls qu'elles ont pu attraper. Il y en a un qui est les réfugiés, qu'on l'a eu à la fête des associations au Parc Genevro, avec son livre, qu'il a aidé en livre. Il a réussi à avoir les réfugiés ouais. politiques ici en France. Et bien, c'est les seuls prisonniers politiques, c'est Ramiro, qu'elle ouais. est actuellement.
C'est vrai
qu'on
ne s'en rend pas compte, mais ça a été aussi compliqué, énormément compliqué pour l'asile politique et pour les réfugiés. Ouais.
Et puis il y a des gens qui ne savent pas, ils disent comment encore ouais. au Chili, est-ce qu'il y a ouais. des personnes qui sont encore en prison, mais il y en a encore, mais les gens ils s'en parlent pas, quoi. Même dans les médias, dans les journaux, ils s'en parlent pas. Nous, heureusement qu'on a des contacts, on a eu de la chance par vidéoconférence parce qu'ils l'ont passé en portable,
oui.
mais ça a créé un scandale là-bas dans la télévision chilienne, parce que lui, il a parlé, ils ont fait une interview à la télé, il a passé dans tous les médias. Et c'est la première fois que nous, on les voyait depuis tout jeune.
Depuis
quoi.
Très longtemps, ouais.
Et là, bon, demande, j'espère qu'avec la nouvelle constitution qu'elle est en train de s'écrire, et justement, la directrice de la constitution, c'est une femme mapuche.
Ah, génial.
Alors, on a
ça.
Tout l'espoir que voilà, qu'ils vont changer la constitution, parce que la constitution, elle est toujours, hein, depuis 48 ans, qu'il y a eu les coups d'État, que ça n'a pas changé.
Ouais.
Il y a des gens qui croient que voilà, que parce qu'il y a eu tel et tel président, qu'ils l'ont changé, mais non, elle est toujours là, quoi.
Et justement, Marcia, vous vouliez réagir par rapport à la Jamaïque. Comment est-ce que vous, enfin, ça s'est passé et vous,
En fait, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de tout ce que nous avons fait pendant la période via Zoom. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'associations qui n'ont pas eu Zoom. Beaucoup d'associations qui n'ont pas eu de connexion Internet. Et même s'ils ont eu de comprendre de toute histoire de download Zoom et de faire fonctionner Zoom, ce n'était pas du tout évident. Et je sais que je me rends compte, plus je parle avec les associations, je sais qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. Et ces associations qui n'ont pas pu fonctionner avec les médias, avec tout ce qui est Internet, ils ont beaucoup, beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup.
Ouais. Et ça leur a apporté, ce que vous me disiez, un peu de joie, justement, d'avoir ce lien, parfois, quand vous arriviez à les avoir en Zoom.
Oui.
Et que, de base, par exemple, l'atelier ne devait pas durer autant de temps, mais vous le prolongez parce que vous voyez que ça leur faisait du bien psychologiquement. Tout à l'heure, on parlait de la santé mentale et du lien social. C'est aussi très important.
Absolument, absolument. C'est... Chaque émission que nous avons fait, en chaque événement, on se rend compte que même si on dit c'est 2 heures ou 2 heures et demie, quelquefois ça dure 3 heures parce que à la fin, on coupe à la. Si on a dit c'est 2 heures et demie, on le coupe à 2 heures et demie. Mais on voit que tout le monde est là, personne ne bouge parce qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de juste discuter avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est comme s'il tenait le fil.
Oui.
Il ne voulait pas lâcher. C'est vrai que la santé mentale, c'est très important. Voilà, on va essayer d'en faire plus. Mais aussi, il faut qu'on essaie d'aider les associations à développer ce côté connexion via le web, parce que Plus on parle, plus on se rend compte que c'est nécessaire.
Et justement, comment ça s'est passé pour vous, Cassie, avec la station Deir el-Khair? Parce qu'en plus, il y a eu malheureusement les incendies qui se sont produits en Kabylie. Vous intervenez là-dessus. Comment, malgré tout, vous avez pu réussir à mettre en place des initiatives à l'étranger?
Nous, malheureusement, on n'a eu que des nouvelles... On a eu beaucoup de nouvelles malheureuses. On a perdu, moi-même, dans ma famille, on a perdu des champs d'oliviers, de figuiers, on a perdu des habitations, des maisons. Et donc, on sentait bien qu'il y avait un manque en termes médicaux en Algérie.
On vous entend quand même.
D'accord. Donc, il y avait ce manque. Ça a commencé avec le Covid, où il n'y avait pas beaucoup d'oxygène. Donc il n'y avait pas beaucoup d'oxygène, donc c'était la première opération, c'était d'acheter des concentrateurs d'oxygène et de les envoyer en Algérie. Et puis malheureusement tout le monde en voulait, donc tout le monde cherchait des concentrateurs d'oxygène, et puis on n'en trouvait plus. Il fallait les faire venir de Chine, mais ça prenait un temps fou, 40 jours minimum. Et de là, c'est déclaré les incendies. Donc il fallait répondre aux besoins de médicaments, notamment concernant tout ce qui est pour les brûler, quoi. Donc nous, on a mobilisé des gens pour... la mairie nous a prêté justement une salle pour pouvoir recevoir les dons. Donc on a collecté, les gens, ils étaient très très solidaires de l'Algérie. On a eu beaucoup de médicaments, beaucoup de matériel. Et ça me fait chaud au cœur parce que, voilà, on sent que l'Algérie, elle est quand même au-delà de ce qui s'entend sur l'Algérie. Les gens apprécient beaucoup l'Algérie.
Oui, il y a un lien particulier aussi.
Voilà, et puis il y a un lien particulier avec la France, et particulièrement avec Nanterre aussi.
Ouais. Nanterre, il y a eu aussi l'histoire avec les bidonvilles, une grande communauté.
Exactement. Donc nous, on s'est mobilisés effectivement, et puis c'est la première opération qu'on met en place avec l'Algérie. Mais sinon, pendant le Covid, on a essayé aussi de continuer nos aides pour l'Afrique. Donc des aides alimentaires, toujours dans le creusement des puits, etc.
Ouais.
Voilà.
Et du coup, pour l'Est...
Je voudrais juste rajouter quelque chose que vient de dire Cassie. C'est juste pour dire que, vous voyez, Nanterre est vraiment une ville de solidarité, une ville d'accueil. Quand cette histoire est arrivée, en tout cas les incendies que nous avons connus ou appris concernant l'Algérie, en règle générale, en Nanterre, les salles municipales sont fermées au mois d'août pour être désinfectées, pour apporter quelques... Voilà, s'il y a des choses à faire, des travaux et tout ça, pour pouvoir les rouvrir au 1er septembre, pour que les associations reprennent les salles désinfectées, propres, avec des travaux. Pour d'autres, on rajoute du matériel et ainsi de suite. Eh bien, nous avons donné une dérogation spéciale. On n'a pas voulu tenir compte alors qu'on est en pleine pandémie.
Ouais.
Et on s'est dit, il faut absolument trouver un moyen pour que Dire El Caire puisse faire ce travail-là, c'est-à-dire collecter du matériel, des médicaments pour les gens en Algérie. C'est ça aussi une ville solidaire.
Et ça rejoint le propos de monsieur le maire tout à l'heure qui disait que Nanterre était une ville du fer. C'était une ville d'action. Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc je voulais vraiment... Ouais.
Merci infiniment de votre aide de toute façon.
Et du coup, pour la CCFD, justement, Terre solidaire, comment est-ce que vous avez quand même réussi à mener des actions à l'international et à garder justement ce lien avec les associations à l'extérieur et vos partenaires?
Oui, au niveau du CCFD Terre solidaire, on a constaté que, en fait, bien sûr, pendant la pandémie, les actions directes n'étaient pas possibles, même quelquefois de ne pas pouvoir envoyer des moyens financiers. Mais le fait de quand même pouvoir rester en lien avec nos partenaires était quelque chose de très important pour eux. Parce que le fait d'être soutenu moralement compense en grande partie les pertes qu'il y a ou les impossibilités sur le moment. Mais toujours est-il que je crois que ces contacts qu'on conserve avec les partenaires sur le plan moral est vraiment un apport pour eux qui est très important. Bon, y a aussi un aspect qu'on peut évoquer en France, c'est notre action auprès des pouvoirs publics aussi. Donc,
au niveau des pouvoirs publics, on essaye aussi travailler ce qu'on appelle le plaidoyer au niveau du CCFD, un plaidoyer. Et là, en ce moment, on a démarré depuis quelques semaines une action pour participer à la COP26 qui se tient en Grande-Bretagne et dans lequel on lutte contre le prix du carbone, là, donc d'avoir des compensations carbone au lieu de remédier à la production de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose là qui nous mobilise énormément, donc d'avoir une action là, internationale pour justement avoir une meilleure justice climatique. Là aussi on travaille pour le climat et contre le dérèglement climatique, et on pense que l'avant-projet de la COP26 au niveau de son article 6 ne va pas dans le bon sens. Donc là il y a une action vis-à-vis des pouvoirs publics, on essaye de mobiliser des partis politiques, de mobiliser des acteurs politiques, de la vie politique, pour qu'ils influent une conduite au niveau de la France pendant la COP26 qui va se tenir au mois de novembre.
Très bien, merci.
Est-ce que vous avez un mot pour conclure justement, Thérèse, par rapport à tout ce que vous venez d'entendre?
Vraiment, je ne saurais pas, je saurais quoi dire. Tout ce que je peux dire là, c'est que sans les associations de Nanterre, Nanterre ne serait pas Nanterre. Donc aujourd'hui, nous avons la crise que nous sommes en train de traverser, parce que je ne peux pas dire qu'on l'a traversée, parce que nous y sommes encore un tout petit peu. Ouais. J'espère que bientôt elle sera derrière nous. Mais quand on regarde l'action des associations pendant la pandémie l'année dernière, on se demande vraiment, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui moyen de maltraiter les associations telles que le fait aujourd'hui le gouvernement Macron? Je ne pense pas. Donc, à Nanterre, nous continuerons notre travail, nous continuerons à nous battre auprès de nos associations et nous serons toujours là pour les soutenir.
Donc, pour conclure, Nanterre est bien une ville justement du fer, avec des associations qui justement travaillent ensemble pour pouvoir mener des actions. Merci à tous du coup pour votre participation et sur cette émission qui du coup clôture la fête de la vie associative.
Merci. Merci à vous.
Merci. Merci. Merci.